Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago, numéro 1328, en ce samedi 13 juin. J'espère que tout le monde va bien. Tout le blues actuel, avec un petit œil dans le rétro, chaque samedi, c'est Sweet Home Chicago. Marc Loison avec vous pour 2 heures de blues sur Radio 666. Dans la première heure de ce 1328e Sweet Home Chicago, deux nouveaux extraits du magnifique disque du mois intitulé Coast of Light, signé Luke Winslow King, qui sera l'invité de l'émission dès samedi prochain. Une nouveauté Frenchie dans cette première heure, A New World du groupe breton Smooth, bien rock. Ce sera diffusé juste après le 71e numéro de My Rockers et son invité du mois, Bruno Labati. Basé à Paris, cet attaché de presse chevronné a fait de nombreux métiers autour de la musique, de disquaire à animateur radio en passant par conseiller artistique, en véritable passionné de rock et de blues. On évoque ses premières amours et ses groupes de chevet et grâce à cette interview passionnante, on sait exactement en quoi consiste le métier d'attaché de presse pour des artistes ou des festivals. Ces lumières sont mises à contribution pour une belle vision de la musique de ce dernier demi-siècle et même davantage, avec en ligne de mire, outre les indéboulonnables Beatles, Deep Purple ou Motorhead qu'il adore, le groupe phare des années 1968-1980, Led Zeppelin. Bruno Labati nous emmène écouter les artistes avec qui il a travaillé, comme Chaka Ponk, Manu Lanvin ou The Sinelli Brothers, et ses coups de cœur, dont David Bowie, Iron Maiden, Tedeschi Trucks Band ou encore AC/DC. 40 minutes de bonheur en rock avec Bruno Labati. Et puis, grâce à Emmanuel Bourdet, l'un des auditeurs de Sweet Home Chicago, la rubrique Les Incontournables nous ramène en 2000 avec les deux géants que sont B.B. King et Eric Clapton pour leur album commun Riding with the King. En deuxième heure, on aura trois invités, Michel Roland, Denis Agenais et Delany Pickering. Allez, on démarre avec Luke Winslow King, ça s'appelle Dangerous Blues.
We'll be right back.
Dangerous Blues, Luke Winslow King sur l'album Coast of Light. C'est le disque du mois de juin pour Sweet Home Chicago. Voici ce 71e My Rockers avec Bruno Labbati. Le 71e épisode de My Rockers avec un nouvel invité, comme chaque mois, Bruno Labbati. Bruno, bonjour.
Bonjour Marc.
Bienvenue dans My Rockers, c'est à ton tour.
Merci de m'accueillir.
Je t'en prie. Écoute, on se connaît depuis quelques années. On se connaissait sur les réseaux et puis on s'est enfin rencontrés il y a quelques années. Ton travail, c'est attaché de presse, mais pas que. T'as pas fait que ça, on va en parler. On va évoquer ça dans quelques minutes. Mais tout d'abord, Bruno, faire connaissance avec toi et puis surtout savoir, c'est un peu la question rituelle dans My Rockers, comment est-ce que tu as été éveillé à la musique? Est-ce que ça a été tôt dans ta vie et quel style? Surtout.
Alors tôt, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que malgré tout, oui, je n'étais pas non plus un minot, mais j'avais 9-10 ans.
Très jeune.
Voilà, mise en contact avec cette musique que l'on chérit tous, c'est-à-dire le rock, le blues, la soul, par l'intermédiaire d'un voisin, un copain, qui avait 2-3 ans de plus que moi, et dont le grand frère avait déjà quelques disques, parmi lesquels il y avait évidemment les Beatles, le fameux double rouge, le double bleu, tu vois, qui ont déjà façonné mes oreilles, parce que des tubes. Buy you diamond ring, my friend, if that makes you feel all right. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. Bien évidemment, quand tu apprends l'anglais, les Beatles, c'est un truc, c'est des histoires de vie, de machin, de bidule, des refrains que tu retiens, et c'est un peu la bande-son, en fait, de mes toutes premières années, on va dire, quand j'étais connecté avec cette musique. Puis après, il y a eu d'autres chocs, si tu veux, on peut en reparler.
Bien sûr, complètement. Alors là, tu disais faire une dizaine d'années, donc on est en 2015, c'est ça environ, comme au moment où tu écoutes les Beatles pour la première fois.
Ah oui, 2015, bien sûr.
Mais c'était un groupe, on va quand même rappeler que les Beatles se sont séparés en 1970, tu n'étais pas né, Bruno, j'imagine.
C'est arrivé. Oui, j'étais né. Si, j'étais né.
Tout juste alors.
ouais, un petit peu avant quand même. Mais voilà.
D'accord. Et en fait, voilà, c'est le genre de réponse que j'ai de temps en temps dans les My Records, dans les interviews. C'est les Beatles, mais c'était pas forcément pendant la période d'activité des Beatles ou de créativité, tout au moins. C'est un groupe qui a continué à mettre le pied à l'étrier à pas mal d'amateurs de musique. Alors, il y a aussi d'autres artistes qu'on peut citer peut-être de la même époque ou un petit peu après.
Oui, tout à fait. Par exemple, un de mes grands chocs, ça a été évidemment le Led Zeppelin 4.
Ouais.
Hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove.
J'entends sur cette belle chaîne IFI qui était dans le salon, qu'on allait squatter quand le frangin était pas là et les parents étaient pas là, et donc on pouvait se permettre de mettre du son, c'est le Led Zeppelin 4 avec Black Dog, Rock'n'Roll, enfin bon, des titres.
Stairway to Heaven.
Mais bien sûr. Alors peut-être moins ça, mais la voix de Plante, les guitares, enfin.
Ah, quand même, Stairway to Heaven dans les booms pour Pichot, c'était quand même pas mal.
Ah oui, ça c'était pas mal. C'était un peu jeune quand même. J'avais une dizaine d'années, j'étais pas encore trop là-dedans. C'est venu après, mais surtout la puissance dégagée et ce côté presque, je dirais, animal, quoi, tu vois. Et puis, quand tu prends la pochette, même si celle-ci n'est pas très évocatrice, parce qu'on ne les voit pas.
Oui, c'est la pochette où on voit un vieux, c'est une photo qui date du 19e siècle, qui a été retravaillée.
Exactement.
Ouais. Et alors, puisque tu évoques Led Zeppelin, l'année dernière, on en parlait hors antenne, il y a eu un superbe documentaire sur les débuts de Led Zeppelin, les deux premiers albums, la carrière américaine. Qu'est-ce que tu avais pensé de ce documentaire?
Je me suis précipité pour aller le voir dans une très belle salle, et je dois dire que j'ai pris une énorme claque, parce que, même s'il y a des documents qu'on connaît, c'est déjà, là, ils ont été, en termes de qualité, ils ont été updatés, tu vois, donc les nouveaux formats, etc. Et puis les interviews, enfin, c'est fantastique, quoi. C'est pas dire qu'il y a un avant, un après, mais c'est quand même une période bénite, parce qu'on parle de Led Zeppelin, là, mais il y avait d'autres groupes, tu vois, même des groupes comme Humble Pie, qui sont pas très connus du grand public, ou même toute cette scène blues avec les Savoy Brown, Chicken Shack, etc., que j'ai découvert ensuite.
Oui.
Mais il y avait une effervescence qui était juste incroyable. Et alors là, ce qui est impressionnant, quand on te remet encore cette histoire qui venait de Led Zeppelin, c'est que Jimmy Page, évidemment, c'est un grand musicien, mais c'est aussi un grand producteur, et puis c'est aussi un gars qui a une vision, parce que l'album, il l'a produit, c'est donné, il payait des musiciens, et avec son manager, ils sont allés voir Warner, il dit, voilà, l'album, il est comme ça, la pochette, elle est comme ça, vous êtes partant ou pas, quoi.
Ouais.
Et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas, ça, tu vois.
quelque chose qu'on découvre à l'occasion, voilà, quand on va fouiller un petit peu, quand on bouquine aussi, parce qu'il y a aussi des ouvrages, énormément de choses qui sont consignées par écrit à propos de l'histoire de ce groupe et puis de bien d'autres, bien sûr. Alors, on va parler de Led Zeppelin en fin de parcours, j'ai l'impression, Bruno, parce que ça m'a l'air d'être quand même le groupe coup de cœur, même si les Beatles ont été importants. Il y a eu aussi Deep Purple à un moment donné, peut-être pour toi.
Bien sûr. Et puis, l'album Machine Head, notamment, le premier morceau, Highway Star, enfin, tu vois, avec cette voix qui monte. Évidemment, après Smoke on the Water, que tu essaies d'apprendre à jouer à la guitare.
Je crois qu'on l'a tous fait, ça.
Voilà, et puis des morceaux comme Space Trucking, juste fantastique. Enfin, voilà, c'était des albums qui sont des game changers, comme on dit, tu vois. C'est des disques que tu peux réécouter 40 ans, 50 ans après.
C'est vrai, ça fonctionne toujours, exactement. Bruno Labbadie, si je t'appelle, c'est parce que d'abord, tu es un passionné de musique. On se connaît parce que quand tu es attaché de presse et tu as affaire aux radios, ben, forcément, on est en contact. Donc, ton agence s'appelle Let It Buzz et tu établis des partenariats. Une agence de promotion indépendante qui propose des services à la carte, c'est bien comme ça qu'il faut le dire.
Oui, tout à fait, parce que si tu veux, aujourd'hui, moi j'étais chef de projet aussi, label manager en maison de disques.
Chez Night and Day,
chez Night and Day, après avoir fait quelques années à la Fnac, notamment en magasin, et là en magasin, bah, tu apprends ce que c'est le métier de terrain à l'époque où il y avait des très grosses ventes, les magasins étaient pleins.
Mais surtout à l'époque où il y avait, tu l'as dit, des clients et puis des disques à vendre, et puis aussi des gens pour te conseiller, puis te faire écouter les disques que tu avais envie d'acheter. Ça n'existe plus, on va sur Internet maintenant.
Ouais, exactement, donc un vrai travail de prescripteur, et donc dès que je suis arrivé à la Fnac, j'étais très curieux, donc j'écoutais plein de choses, il y avait les fameuses empreintes disques tous les jeudis avec 10 disques qu'on ramenait la semaine d'après, et les disques évidemment qu'on écoutait en étant sur la surface de vente. J'ai fait ça pendant 8 ans, et après je suis passé chez Fnac Import, donc là je suis passé de l'autre côté, donc j'étais fournisseur pour la Fnac, je m'occupais donc des achats anglais entre autres, puis ensuite Night and Day, puis ensuite après Gibson, pour qui j'ai travaillé pendant 6 ans.
Gibson voilà. France, hein, c'est ça.
Gibson France, ouais, tout à fait, donc relation artiste, et puis bah là, donc tu me parlais de partenariat avec SFR à l'époque, avec Renault, et puis évidemment la relation artiste très étroite avec les musiciens qui cherchaient telle ou telle guitare pour tel ou tel projet, et puis voilà, quoi, c'était quand même le gros du boulot, c'était d'équiper les musiciens, donc qui avaient une belle visibilité, évidemment pour exposer la marque au mieux, et puis aussi aller chercher des artistes qui étaient émergents, qui étaient les futurs têtes d'affiche.
Quels sont ceux que tu as découverts à cette occasion, dis-moi Bruno?
Ah bah il y a un groupe avec lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est Chaka Punk.
Oui.
Je les ai vu grandir, etc. On a travaillé ensemble, notamment avec Cyril, le guitariste, essentiellement. Ouais, c'est une super histoire, parce que ça n'a pas été simple. Ils sont partis en Allemagne, ça n'a pas marché pour eux, ils sont revenus en France, et puis petit à petit, ils ont commencé à remplir les salles, ils proposaient quelque chose de différent dans l'air du temps. Et puis bah, finalement, avec l'adhésion du public, les médias ont commencé à s'intéresser à eux, et puis ils ont eu quelques singles qui ont bien accroché, puis c'est devenu le truc énorme qu'on connaît, quoi. Voilà.
Alors on l'a dit, Bruno Labbadie, tu as travaillé à la Fnac, tu as travaillé pour Night and Day, distribution chez Gibson France. Tu es maintenant attaché de presse, mais tu as fait de la radio, il me semble, à un moment donné, non?
Oh là, mais il y a très très longtemps.
Il y a très longtemps, au début des radios libres ou un petit peu après, peut-être?
Ah, radio libre, tout à fait, avec des copains, tu vois, on était fans. On était vraiment dans le hard rock, qu'on appelle maintenant le classic rock, hein, je parle pas de métal.
Oui.
Donc un rock assez énervé. On était aussi fans de Motorhead que d'AC/DC ou même d'Iron Maiden ou de Judas Priest. Mmh. Et puis d'autres groupes plus confidentiels, notamment il y avait une scène française à l'époque qui fonctionnait plutôt pas mal. Ça m'a permis ensuite d'écrire dans Enfer Magazine, le premier magazine de hard rock qui est sorti en France en avril 83. Mais ça ne nous rajeunit pas, donc j'ai
parti. Tu parles d'Iron Maiden, Judas Priest, ce sont des groupes qui existent toujours, contrairement à Led Zeppelin dont on va parler en fin d'émission. Comment tu réagis quand tu vois qu'il y a un concert d'Iron Maiden qui se profile à l'horizon? Tu vas acheter tes places absolument ou tu te fais inviter? Comment ça se passe?
Tu veux, je suis sceptique. Et je pense que peut-être, on va dire qu'Iron Maiden, c'est peut-être, n'en déplaise à certains, je pense que c'est une. D'ailleurs, il y a un film là, qui arrive là, un doc qui a l'air d'être super.
Oui, il y a une actu, j'ai vu.
Là, qui arrive très très bientôt. Iron Maiden, pour les avoir vus encore il y a quelques années au Hellfest, j'ai trouvé que c'était un groupe qui était encore une machine de guerre. Ils sont encore très très bons. Alors après, bon, ce qui me gêne un peu plus, moi j'aime beaucoup les 3-4 premiers albums. Allez, on va jusqu'au 5e. Ensuite, ça m'intéresse un peu moins. Et ça dépend un petit peu de la setlist qu'ils jouent. Quand ils jouent une setlist best-of entre deux albums, je m'y retrouve. Quand ils font, et c'est bien pour les fans d'ailleurs, quand ils jouent quasiment l'intégralité de leur dernier album, là ça m'intéresse beaucoup moins. Mais je dois dire qu'en termes de performance, c'est encore un groupe qui est au top, contrairement à beaucoup de leurs contemporains qui sont à la peine quand même.
Ouais, un groupe qui existe depuis 45 ans, Iron Maiden, et puis qui a une actualité, tu viens de le rappeler. Est-ce que tu as vu passer un message de Bruce Dickinson l'autre jour qui se disait favorable au concert à bas tarif, contrairement à la plupart des groupes qui.
Mais oui, mais bien sûr, bien sûr. Ben voilà. Oui, il a tout à fait raison. Et d'ailleurs, là j'ai vu, là il y a un concert à l'Aube Arena bientôt, et d'ailleurs, c'est un des rares groupes qui fait ça. Notamment dans des salles de cette taille-là, il n'y a pas de site, tu sais, avec des billets à 180 ou 200 euros.
Ouais.
Tu achètes ta place, certes, c'est pas donné, mais ça reste quand même malgré tout abordable pour un groupe de ce statut. Et tout le monde est dans la fosse en bas.
D'accord.
Voilà. Et au même prix. Donc c'est les premiers qui arrivent qui sont les
mieux placés.
Voilà.
Bruno Labbadie, tu as monté cette structure Let It Buzz il y a une petite quinzaine d'années. Attaché de presse, c'est vraiment ton rôle principal en ce moment. Bruno, attaché de presse, est-ce que c'est un peu être l'avocat des artistes ou des lieux, des festivals pour lesquels tu fais la promotion?
Oui, l'avocat, mais c'est surtout le représentant. Et au-delà, tu veux, je travaille avec beaucoup d'artistes en direct.
Oui.
Pour certains qui étaient sur des labels, et puis maintenant les labels, bah, c'est très très compliqué parce que les ventes sont pas forcément au rendez-vous. Les artistes vendent de plus en plus au concert. Je parle des artistes en développement, bien évidemment. Et donc, bah, je fais aussi, de quelque part, de chef de projet pour leur aider à trouver une distrib, pour le rétro-planning d'une sortie. Tu vois, des tas de conseils qui font partie de ma prestation, bah, parce que tout simplement, ayant travaillé en label, ayant signé des artistes en licence, bah, le rétro-planning, je sais comment l'élaborer. Enfin, tu vois, j'ai des réflexes, hein, je vais pas te faire le catalogue.
Ben si, c'est important, parce que c'est vrai qu'attaché de presse pour le commun des mortels, je pense à certains auditeurs qui sauraient pas forcément à quoi ça consiste. On est d'accord que c'est de la promotion, le conseil au développement, ça c'est important. Parfois on a affaire à des artistes qui démarrent, et puis d'autres qui sont plus chevronnés, qui n'ont pas forcément besoin de conseils pour aller à droite à gauche, mais dont il faut suivre la promotion, notamment à l'occasion de la sortie des albums, c'est ça un peu Bruno?
Mais tout à fait, alors certains sont signés par un label, donc là le label fait son job, mais moi je travaille avec de plus en plus d'artistes en direct, hein. Et donc là effectivement, moi j'ai un rôle de label manager, ni plus ni moins. Mais voilà, ça fait partie de ma presta et ça se passe très bien comme ça. C'est naturel et l'idée, c'est que quand tu crois en un projet, c'est de faire en sorte qu'il vive le mieux possible, au-delà évidemment des relances médias, des interviews à Calais, des interviews en radio, télé, prestations acoustiques sur des plateaux radio et puis évidemment la presse et le web.
Quelle parité parmi tes clients entre les Français et les étrangers?
Je travaille de plus en plus avec des artistes français finalement.
Mmh.
On va dire, allez, 2/3 de français. Pourquoi? Bah parce que je pense que les artistes français ont tout intérêt déjà à être reconnus sur leur territoire.
Mmh.
Une fois que bah, ils ont une certaine notoriété, dans un deuxième temps, je pense qu'il est plus logique, une fois que tu as obtenu cette notoriété, cette reconnaissance, que tu commences à avoir des concerts, que les gens viennent aux concerts, que que les médias s'emparent du projet, et ben effectivement, fort de ça, après, on peut effectivement penser à aller de l'autre côté des frontières, bien sûr.
Élargir les ailes des artistes.
Bien sûr.
Comment s'établit un contrat avec un artiste ou un festival ou un lieu? Qui contacte l'autre généralement?
Alors souvent, je travaille beaucoup avec Sophie Louvet, que tu connais également.
Mais oui.
Voilà, qui est un peu mon alter ego, pas sur tous les projets, mais sur beaucoup de projets. Et en fait, on est souvent contacté. Et puis parfois, ça nous arrive aussi d'avoir des coups de cœur et de contacter les artistes, comme je l'avais fait avec les Chinelli Brothers.
Oui.
I've been drinking and thinking, I might just be doing something wrong. I've been feeling and wailing, I'm never gonna finish this song. I've been trying and crying and locked in a cell of despair. Then he came to me, spoke to me, softly so silent, the answer was suddenly there. I'm reeling, I'm falling, I'm sinking and coming round again. I can see I'm not chasing some stupid, unreachable dream. And I know I can do what I need, I've done to for so long. When I just quit sitting here singing my sad, unsingable song.
Les Chinelli Brothers, bah, par exemple, j'écoutais une playlist sur une plateforme de stream. Et oui, désolé, ça m'arrive aussi d'aller sur les plateformes de stream.
Il n'y a pas à être désolé, c'est un des vecteurs musicaux à peu près incontournable maintenant, même si à titre personnel, je ne me suis pas encore mis, mais je sais que beaucoup de mes collègues le font. Hein.
Ouais, c'est très pratique parce que voilà, ça fait gagner du temps, c'est pratique. Bon, la qualité du son n'est pas forcément toujours au rendez-vous, mais ça permet déjà d'avoir pas mal d'infos sur l'artiste.
Ouais.
Et j'écoutais un album, je ne sais plus lequel. En général, à la fin d'un album, tu es dirigé, enfin, entre guillemets, on te bloque sur une playlist.
Ouais.
Et puis bon, voilà, je travaille, je passe des coups de fil, enfin bref, je tiens mes dossiers de presse, mes machins, mes trucs, mes relances, mails, enfin tout ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu reçois aussi souvent. Et à un moment, il y a un morceau qui sonne, et vraiment, je fais, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'adore la voix, je trouve que c'est pas plus du blues traditionnel, mais il y a un côté un peu pop qui m'attire, et j'écoute, et c'est les Chinelli Brothers.
D'accord.
Tu cliques sur leur présentation, avec tous les albums, les EP, etc., je regarde, et puis je vois que le truc commence à bouger un peu en France et tout, je vois les dates, je vais sur leur Facebook, leurs réseaux sociaux. Et puis, on est en contact avec eux, on se parle quelques jours après. Bah, ça nous a permis de travailler avec eux sur le dernier album. Voilà.
C'est suite à ça qu'ils ont continué à augmenter aussi leur catalogue de concerts. Je ne vais pas dire qu'on les voit partout, ce n'est pas encore le cas, mais tu parles des Chinelli Brothers il y a 5 ou 6 ans, dans le petit monde du blues, on ne connaissait pas franchement. Hein.
Oui, et puis déjà, l'album était chouette album, sur lequel on a eu pas mal de choses. Et puis, de pair aussi, il y a une boîte de bouquins qui s'est mise dans la boue, donc qui s'appelle Andoro Dogen.
Oui.
Et donc, conjointement, ça nous a permis de gagner en efficacité. Et donc en visibilité, et c'est un groupe qui est fantastique sur scène. Bah voilà, quand il y a une bonne équipe autour d'un projet, alors qu'ils font tout en indépendant, bah les choses avancent, les portes s'ouvrent, et puis les gens parlent, et les gens viennent au concert.
Puis ils arrivent à tête d'affiche maintenant, les Chinelli Brothers. Beaucoup de cœur en tout cas. Tu parlais de Sophie Louvet, tous les deux vous travaillez souvent ensemble, tu l'as dit, des projets communs, des projets similaires. Comment est-ce que vous partagez le travail, Sophie et toi, Bruno?
Alors Sophie est plus sur la télé et la radio,
ouais.
Et moi plus sur la presse et le web. Alors, on se renvoie les choses, tiens en fait, si tu l'as eu pour ça, tu peux lui parler de ça, je l'ai pas réussi à la voir. Ah bah moi je l'ai croisé à tel concert, tu vois, enfin bon, j'ai envie de te dire que bah tu le sais, tu reçois nos newsletters respectives,
oui.
Et j'ai pas envie de dire que plus t'es pressant, plus t'as de résultats, c'est pas ça, mais bah, je veux dire, la récurrence fait que, puis la régularité fait qu'à un moment, quand tu travailles, en plus que tu te mets en quête de travailler avec des gens qui proposent des projets de qualité, à un moment ça avance, les choses bougent, il n'y a pas vraiment de terrain de jeu délimité, on se croise et puis on a chacun nos spécificités, effectivement on travaille étroitement quoi.
Travaille en symbiose donc avec Sophie Louvet.
Bien sûr,
que pour faire ce métier, c'est obligatoire d'habiter en région parisienne?
Pas du tout. Aujourd'hui, l'idée, c'est quand même de venir de temps à autre sur Paris, parce que quand tu viens à un concert, tu rencontres des gens, tu discutes avec eux, et c'est très important. On est quand même dans un métier de contact, donc c'est vrai que depuis l'après-Covid, beaucoup de gens sont partis en province, etc. Mais c'est vrai que je travaille d'ailleurs avec des gens que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontrés. Et je trouve ça un petit peu frustrant. Certains qui sont en province ou même des fois en région parisienne, je leur dis, quand tu vas sur un concert à Paris, envoie-moi un petit texto, et si j'y suis, ce sera l'occasion de se voir, de discuter, de prendre un verre et de créer un petit peu un vrai lien. Parce que ça peut dire que on se parle au téléphone, etc. Mais je pense que de rencontrer les gens et de pas parler que de musique, si tu veux, même si c'est notre passion commune, c'est important, tout simplement, quoi.
À titre personnel, Bruno Labbadie, est-ce que tu voyages beaucoup? Est-ce que c'est essentiellement pour la musique, justement, pour ces fameuses rencontres, pour les festivals, ou à titre privé? Et puis là, tu coupes tout et franchement, t'es en vacances, vacances, quoi, famille.
Ça m'arrive de bouger pour aller sur des festivals que l'on défend.
Oui.
Ça m'arrive aussi de bouger pour aller voir un artiste, mais pas plus que ça, finalement, parce que c'est vrai qu'à Paris, on est quand même globalement très gâté, on n'a pas à se plaindre.
Mmh.
Et en vacances, bah non, quand t'es indépendant, sauf, on va dire, entre le 20 juillet et puis le 15 août, il se passe pas grand-chose,
ouais.
Mais j'ai toujours quand même un œil sur mon téléphone. Pour la première fois, l'année dernière, j'ai réussi à partir en vacances à l'étranger sans mon ordinateur portable, mais voilà, c'était la première année, je me suis permis ça.
On évoquait ton grand âge tout à l'heure, Bruno,
ouais.
Avec un gros sourire. Est-ce que t'as connu ce métier avant l'essor des réseaux sociaux et peut-être même encore avant Internet? Comment est-ce que ça se passait, ce travail, finalement?
Alors moi, j'étais pas attaché de presse à l'époque, que j'étais magasin.
Quand Internet est arrivé, on va dire grosso modo 1995-2000, et puis les réseaux sociaux, voilà, vers 2010, tout ça, c'est des jalons au fil de notre histoire de communication musicale. Sans les réseaux sociaux, on pouvait travailler quand même déjà à l'époque.
Ah bah bien sûr, il y avait le téléphone, il y avait les fax. Même moi, si j'étais pas, c'était pas mon job à l'époque, mais évidemment que les gens se rencontraient, peut-être plus d'ailleurs. Et effectivement, la presse avait une importance qui aujourd'hui est en train de, malheureusement, de s'amoindrir. Voilà, aujourd'hui, il y a plein de manières de découvrir la musique, mais si ce n'est que il y a tellement de choses, à un moment, c'est un peu trop, donc il faut quand même mettre, si possible, l'accent sur les choses qui en valent la peine, quoi, tout simplement, quoi.
My Rocker sur Radio 666, également sur bluesactu.com.
Bruno Labbadie, qui sont les artistes pour lesquels tu as vraiment été soit fier, soit heureux, tout simplement, de travailler?
Je dirais Manu Lanvin. Manu Lanvin, mon dernier album, je trouve qu'il est vraiment superbe. Man on a Mission, superbe album. Il souvent des sonorités plus actuelles tout en restant fidèle à ses premiers albums, c'est-à-dire le blues et la soul. J'ai vraiment beaucoup aimé travailler sur cet album. Et j'ai aussi beaucoup aimé travailler sur le dernier album des Chinelli Brothers. Vivement le prochain. Donc, en plus de la petite histoire où, voilà, je les ai démarchés, puis ça a pris du temps, je les ai vus deux fois sur scène, on s'est parlé, le temps de se renifler, etc. Qu'est-ce que tu peux nous proposer en France? Et puis, finalement, ça s'est fait. Mais tu vois, j'écoute beaucoup de choses. Par exemple, là, il y a un album que j'aime beaucoup. Moi, c'est le dernier Tedeschi Truck Band.
Ouais.
Superbe parce que je trouve que l'album est plus concis en termes d'écriture, les morceaux sont moins longs et j'ai l'impression qu'il y a des albums précédents que je trouvais sympas, mais c'est comme s'ils enregistraient leurs albums, comme s'ils étaient, en gros, il y avait très peu de différence entre la scène et les albums.
Oui, par exemple, le quadruple album I Am The Moon qui s'est sorti en 2022, qui était absolument gigantesque, que personnellement j'adore, mais c'est vrai qu'on n'est pas sur des formats 3 minutes 30 pour la radio, quoi.
Spinning, I'm spinning.
gargantuesque. C'est-à-dire qu'à un moment, l'artiste peut écrire un morceau de 3, 4, 5 minutes, ce qui est le cas sur le dernier album, et après faire une version de 10 minutes de ce morceau-là, tu vois. C'est pas un problème. Mais enregistrer en studio, enregistrer un album comme on joue les morceaux sur scène, j'ai trouvé que ça allait pénaliser un petit peu, tu vois. Et là, j'ai trouvé que le dernier, il est superbe, cet album. Ça sera certainement un de mes meilleurs albums de l'année, certainement, tu vois.
Très bien. Bruno Labbati, dernière question à propos de ton travail avec cette structure Let It Buzz que tu as fondée en 2010. Je voulais savoir, pour être attaché de presse, enfin en tout cas te concernant et puis concernant les collègues qui te sont proches, quelles sont selon toi les qualités nécessaires pour faire ce que toi tu fais, ce que vous faites?
Si tu veux, déjà, quand tu travailles avec un label ou un artiste, je pense qu'il faut déjà bien identifier le projet et savoir où tu vas aller. Ouais. Si c'est signer des contrats pour les signer et après rien obtenir, c'est ça, tu vois, il y a un échange numéraire, on est payé pour faire ça, donc on est payé, donc on doit avoir des résultats.
Et ça, c'est peut-être quelque chose que tu perçois avant même la signature, quand tu jauges, par exemple, l'artiste, on va parler d'un artiste, puisque tu travailles aussi pour des festivals, mais bref, quand tu as écouté quelque chose, tu vas pas lui dire, écoute, on signe quand même si tu crois pas. Enfin,
c'est... Ah non, ça, imagine. C'est impossible pour moi. Non, j'ai jamais fonctionné comme ça. Je fonctionne pas qu'au coup de cœur. À chaque fois, que ce soit avec Sophie ou d'autres attachés de presse avec lesquels je travaille ou tout seul, je sais à qui je vais pouvoir le proposer et je sais qui, potentiellement, ça peut intéresser. Alors, je n'ai pas une boule de cristal, si tu veux, mais je sais où je vais. Mmh. J'ai à peu près une feuille de route, quoi. Tu vois, j'ai une boussole, on va dire. Tu vois, donc, je sais que ça peut intéresser un tel, un tel, un tel et un tel. Et surtout que j'ai le réseau pour défendre cet artiste, tu vois, ou ce projet, ou ce groupe. Ça, c'est très, très important parce que on est quand même mandaté. Ils nous remettent leur bébé entre les mains et nous, on doit faire en sorte, en fait, de vendre l'artiste au mieux.
Et oui, d'être ton avocat, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui.
Bien sûr, si un label d'électro ou de musique urbaine m'appelle pour me proposer un projet, je dis non, vous êtes trompé, pas de souci. Moi, je suis pas du tout dans cette esthétique artistique. Ouais. Je suis incapable de défendre votre projet, tu vois.
Voilà, donc beaucoup de sincérité et puis beaucoup de générosité pour faire ce métier.
Et puis pas des qualités, alors il faut être organisé.
Avoir le sens du contact, ça c'est important.
Bah oui, non, mais bien sûr, sinon tu le fais pas, bien sûr. Tu as tout à fait raison, sens du contact, il faut être organisé, il faut être méticuleux. Je dirais, il faut relancer les gens, mais il faut pas être trop lourd non plus, tu vois. Il faut sentir les choses. On est dans la relation. Tu parles de relations humaines, oui. Bien évidemment. Et puis, les périodes où des fois ça décroche pas, quoi, tu vois, où ça répond pas aux mails, c'est pas toujours évident. Donc, quand il y a des ponts, quand il y a des périodes très chargées aussi, oui. Donc, eh ben, il faut, tu prends ton téléphone, t'envoies un texto, un messenger, un mail, un WhatsApp, enfin, tu vois.
Voilà, multiplier les moyens de communication et peut-être aussi se faire un petit tableau Excel en disant, bah tiens, lui, ça fait au moins 15 jours, j'ai pas rappelé, il m'a pas recontacté.
Bien sûr, tout à fait.
C'est toute une organisation.
Pas de rappeler la même personne. Deux fois ou trois fois le même jour. Ça s'appelle du harcèlement, tu vois.
C'est ça.
Il faut donner envie aux gens. Faut pas
et
non
ça,
plus,
c'est anti-productif, on est d'accord.
Hein. Exactement. Donc, ouais. Il faut être quand même. Il faut avoir la foi, quoi. Parce que si tu défends des projets dans lesquels tu ne crois pas, bah là, dès que ça coince un peu, parfois tu as même des très beaux projets et tu te dis, tiens, je comprends pas, ça marche pas, machin, bidule. Bon, tu pourrais peut-être écouter cet album, t'es peut-être passé à côté. Moi, j'ai des très bons retours. Et inciter les gens à rentrer dans la danse.
Ouais, un petit peu, ouais.
Comme quand j'étais disquaire et que je proposais aux gens, tiens, qu'est-ce qu'il y a de bien, ça, j'aime pas toi. Mais celui-ci, il est pas mal, ça peut te rappeler ci, ça. Ben voilà, tu parles des artistes et c'est un échange autour de la musique, finalement.
Bien
c'est
sûr.
Ça, là-bas.
Il y a aussi un groupe qui s'appelle Motorhead sur lequel tu as vraiment craqué. On va pas forcément en écouter un titre entier, mais c'est un groupe qui a une histoire un peu spéciale pour toi, Bruno.
Oui, parce que, comme je viens de te le dire, fan de Led Zeppelin, Beatles, Deep Purple, même Bowie, tu vois, ce morceau Rebel Rebel avec la guitare de Mick Ronson, enfin, fantastique. Et puis à un moment, je sens que tous ces groupes, ils tournent un petit peu en rond, notamment le live de The Song Remains the Same. Quand je l'écoute, je suis un peu déçu. Et puis, en Angleterre, il y a un truc qui s'appelle le punk, qui commence vraiment à pousser. J'ai des copains au lycée qui écoutent des tas de groupes que je connais pas et qui me plaisent. Et puis, il y a un groupe qui fait le pont entre les deux, c'est Motorhead.
Ouais.
Feel the-
et je découvre ce groupe chez un copain un mercredi après-midi. Il avait acheté un album, c'était Overkill.
Oui, alors on est au début des années 80.
Ouais, 79, ouais.
D'accord.
Et, ou alors, bon, peut-être qu'il ne l'a pas acheté forcément le jour de sa sortie, mais c'est ça, c'est 79-80. Et là, l'intro avec la double grosse caisse et puis la basse de Lemmy qui arrive, ce son. Et je me rappelle, je suis mais secoué, quoi, tu vois. Comme la première fois que j'ai écouté Led Zeppelin. Un choc sismique, on va dire.
Ouais.
Et je prends la pochette. Déjà, la pochette, elle te parle. T'as l'impression que c'est Mad Max avant l'heure. Je retourne la pochette et j'ai dit à mon pote, mais je comprends pas, ils sont que trois. Ouais, ils sont que trois. Et c'est le groupe qui, pour moi, fait le pont entre le rock'n'roll primaire, enfin, l'essence même du rock'n'roll, le punk, dont on commence à parler, hein, on est en 79, donc il y a eu les Sex Pistols, les Damned, etc., ouais, que je vais découvrir aussi.
Les Clash.
Et puis surtout, dans la guitare d'Eddie Clark, il y a ce côté presque blues, quoi. On sent que le gars a écouté Hendrix, enfin voilà, et donc pour moi, c'est la rencontre de tout ça, quoi.
C'est le pont.
Et je parle vraiment de la période avec le classic line-up, hein, c'est-à-dire Lemmy, Eddie Clark et Phil Animal Taylor. Après, ça m'intéresse beaucoup moins, mais là, il y a 3-4 albums qui sont magiques pour moi.
Voilà, Lemmy qui nous a quittés il y a un petit peu plus de 10 ans, l'âge de 70 ans, Mickey Mister, qui est toujours vénéré par énormément de rockers et puis qui a sa place aussi dans le cœur de ceux qui fréquentent régulièrement le Hellfest, comme toi, je pense.
Alors, je suis allé au Hellfest plusieurs fois.
Ouais.
La dernière fois, c'était, j'ai dit, il y a une dizaine de fois, la première année, parce que justement, il se trouve qu'il y avait Motorhead qui jouait très peu en France à l'époque et c'était l'occasion de les revoir. Alors, j'y vais plus parce que les groupes que j'aimais maintenant sont vraiment très, très, très âgés et je préfère ne pas aller les voir que de voir des concerts, tu vois, de groupes qui comme une musique qui nécessite une grosse énergie. Moi, je suis fan de classic rock, de hard rock, de la rock classique, mais le métal actuel au-dessus de Metallica, c'est pas pour moi.
Ouais, et pourtant, la première édition du Hellfest, c'était il y a seulement 20 ans, et il y avait déjà des groupes qui commençaient à décliner, même si on parle toujours de la santé de fer de Judas Priest ou de Iron Maiden. Dans un autre genre, mais un peu similaire, AC/DC existe toujours. C'est une chance aussi pour les spectateurs de 2026, ceux qui n'ont pas connu l'âge d'or du hard rock et du métal.
Tout à fait, tout à fait. Mais si tu veux, pour moi, ça ressemble plus à un pèlerinage.
Oui, voilà.
Aujourd'hui, tu regardes un concert sur YouTube ou si tu as un DVD qui traîne ou un machin, ou tu écoutes un live, on est quand même très très loin du compte, quoi. Ouais. Enfin, tu vois, la dernière tournée d'ACDC que j'ai adoré, je préfère ne pas y aller. La dernière fois que je les ai vus, c'était avec ma fille au Stade de France en 2009. Mais c'est encore le line-up de Back in Black. Et là, ça joue mortel encore. Après, tu vois, on tombe quand même dans le branding, quoi.
Mmh.
Hein, donc, des places qui sont vendues super chères, des t-shirts, des machins, des sweats, des cornes et tout. Enfin bon, on se l'entend, c'est pour les gens qui les ont pas vus à l'époque, ok. Mais moi, les ayant vus à la bonne époque, je peux plus y aller, quoi. Quand je vais à ces concerts-là, quand je suis invité, je fais pourvu que ce soit pas mauvais, quoi.
My Rocker sur Radio 666, également sur bluesactu.com.
Bruno Labbati, j'ai une question qui va faire le pont avec la toute dernière question, en fait, qui est ton choix, ton coup de cœur, parce qu'on a parlé de Led Zeppelin. Bien sûr, il y a Deep Purple, bien sûr, il y a les Beatles, bien sûr, il y a Motorhead, mais il faut faire un choix final, c'est le principe de My Rockers. On va parler de Led Zeppelin, mais je voulais savoir si on peut faire un petit peu de science-fiction, l'influence incroyable de ce groupe, un groupe qui a fait école, un groupe dont on parle encore 46 ans après sa séparation forcée suite au départ de leur batteur. Si tu avais été, pas forcément attaché de presse, mais manager de Led Zeppelin en 1969, qu'aurais-tu fait?
écoute, je sais pas, en tout cas.
Science-fiction, hein. Séquence science-fiction, on est d'accord.
Et Peter Grant, il a fait un super job. Enfin, je veux dire, il y a pas grand chose à dire. Enfin, si tu vois la carrière qu'ils ont fait derrière. En 69, c'est fantastique. Ils sortent deux albums monstrueux. Ils sont gros aux États-Unis. Ils reviennent en Angleterre. Ah, ils ont tout pour eux. C'est surtout la fin qui est dure. La fin, elle est presque, j'ai envie de dire, prématurée.
Prématuré et tragique, oui.
Prématuré et tragique, mais c'était lié aussi, on va pas rentrer dans le détail, tout le monde le sait, mais c'était lié aussi à leur errance et leur
mode de vie.
Bah, leur mode de vie, c'est ça, tu vois. Donc, ça faisait partie intégrante, leurs addictions, leurs machins. C'était soit ils arrêtaient, si tu veux, moi, j'irais plutôt sur la fin. Peut-être qu'ils auraient peut-être dû s'arrêter et faire un vrai break de 3, 4, 5 ans.
Oui, parce que je sais pas ce que t'en penses, mais l'album de 79, Into the Outdoor, il était quand même un petit peu en dessous de Physical Graffiti, qui lui-même était un petit peu en dessous du précédent. Présence a pas non plus été un grand album.
Ah non, c'est, voilà. C'est un chef-d'œuvre, hein, c'est clair, non. Et là, je pense qu'effectivement, on va dire qu'ils sont au bout du rouleau, mais quand tu as un statut, un groupe de cette envergure-là peut décider à un moment de s'arrêter pendant 3, 4, 5 ans et revenir avec un album qui met tout le monde d'accord et remettre les pendules à l'heure, quoi. Et là, c'est un petit peu dommage, c'est plus lente, même déjà au niveau des concerts, il y a très peu de concerts officiels, mais moi, j'ai pas mal de bootlegs, etc. Et après 73, déjà, c'est un peu moins bon. Et puis alors là, 76, 77, bon, Robert Plant a aussi des problèmes de voix. Et on sent que le groupe, ils sont plus au niveau de 69, 70, 71, 72, tu vois. Ouais. Donc 73, ils sont intouchables, on va dire.
Après, c'est l'enregistrement et puis la sortie en 76, The Song Remains the Same. Ça a été un petit peu l'apogée, finalement, avec ce fameux film qui est passé dans tous les cinémas de l'époque.
Oui, ouais, mais si tu veux, qui est déjà, pour moi, c'est presque le... Alors, c'est le nom de leur label, hein, c'est un peu le chant du cygne, déjà.
Voilà.
Parce qu'il y a quand même des solos, là, des trucs qui sont quand même, on va dire, un peu chiants, quand même. Hein.
Oui, des Unconfused, notamment, qui comportent, par rapport à la version originale, des choses qui sont... un petit peu troublante, quoi.
Ouais, et puis tu vois, bon, alors effectivement, ce qui est intéressant quand t'écoutes les concerts, que tu t'es comme moi, t'es un digger, etc., tu t'aperçois qu'il n'y a pas deux concerts qui se ressemblent. Ouais. Bon, évidemment qu'il y a des fondamentaux, mais il y a toujours des improvisations. Mais là, tu vois, ceux-là, il y a des improvisations qui, dans mon sens, sont un peu loupées. Il y a des concerts qui sont bien meilleurs, qui ne sont pas disponibles, je dirais, sur le marché, on va dire, légal, on va dire.
Oui, parce que des bootlegs, il y en a des centaines, on est bien d'accord.
Exactement, c'est un des groupes qui a été le plus enregistré, parce que justement, les concerts étaient tous différents, mais plus tu t'approches de la fin de l'histoire du groupe, et moins c'est bon. J'ai envie de te dire que c'est peut-être là qu'ils auraient dû mettre la pédale douce.
Donc ça veut dire, Bruno, que si tu t'étais occupé de à l'époque, tu te serais scié la branche sur laquelle tu es assis en leur conseillant de faire une pause.
Ah, clairement. Ouais. Pour mieux repartir. Bah, bien sûr.
Parce qu'ils étaient, il aurait fallu prendre Pink Floyd aussi comme client, du coup, parce que à la même époque...
Voilà, c'est une autre histoire. Il y avait des gros problèmes d'ego, notamment avec Roger Waters, qui après, dans une carrière solo, c'est encore un autre truc, quoi. Là.
Bruno Labbatie, c'est l'heure du choix. Tu me parlais tout à l'heure de Led Zeppelin 4, mais on n'est pas obligé de se cantonner à celui-là. Je pense que tu apprécies, comme tu viens de le souligner, toute la première partie de la discographie de Led Zeppelin. Quel est le morceau emblématique que tu vas choisir qu'on écoute en entier à la fin de ce 71e My Rock Yours?
Ah, bah, ça va te faire rire.
Ah,
surtout pour un attaché de presse, c'est Communication Breakdown.
Ah ben voilà, dans le premier album, d'accord. It's always the same. Ok, Communication Breakdown. Eh ben écoute, on va écouter ça immédiatement. Bruno, je te remercie beaucoup et puis j'espère qu'on va se revoir devant une scène de ces quatre à l'occasion.
Ben, bien sûr, avec plaisir. Et puis voilà, pour écouter ensemble de la bonne musique et puis pour parler encore de musique. Voilà.
Exactement. Merci Bruno, à très bientôt.
À bientôt.
Au revoir. Merci à Bruno Labbadie. On a pu écouter à travers ce 71e My Rockers, The Beatles, Can't Buy Me Love, Led Zeppelin pour Black Dog, Deep Purple avec Highway Star, Chaka Punk, ça s'appelait Let's Bang, Judas Priest, Breaking the Law, Iron Maiden avec Polar, The Sinelli Brothers dans Unsingable Song, Manu Lanvin, Man on a Mission, Tedeschi Trex Band avec Crazy Crazy et Hear My Dear, Led Zeppelin, Good Times, Bad Times, David Bowie, Rebel Rebel, Motorhead avec Overkill et AC/DC avec Shot in the Dark. On se retrouvera au mois de septembre pour le 72e numéro de My Rockers avec Mike Lécuyer qui a choisi les Rolling Stones. Voici une nouveauté maintenant from France, from Bretagne même, Smooth. Ça s'appelle New World, c'est un single. Écoutez-moi ça, c'est bien rock.
Sounds good.
A New World signé Smooth. Salut à Fred et toute l'équipe du groupe, bien sûr. Et puis on attend un album complet maintenant après la diffusion de ces deux singles. Voici les incontournables.
Oh yeah. What can a man do? Mama got mad at Papa. Cause it didn't bring no coffee home. It's my own fault, babe.
I'm a king bee. Yeah, yeah, yeah.
Take me back home.
Les incontournables avec aujourd'hui Emmanuel Bourdet, l'un des auditeurs de Sweet Home Chicago, qui a choisi de nous faire revenir en 2000. Ça s'appelle Riding with the King et c'est carrément B.B. King et Eric Clapton.
You're riding with the king.
B.B. King and Eric Clapton, Riding with the King. Merci à Emmanuel Bourdet pour ce choix, pour les incontournables. Dans 15 jours, un nouveau choix. En attendant, voici pour la fin de cette première heure du 1328e Sweet Home Chicago, un nouvel extrait du disque du mois, Coast of Light, Lotus Blossom, c'est Luke Winslow King.
Soothe me with your caress, sweet lotus blossom, lotus blossom. Help me in my distress, sweet lotus blossom, lotus blossom. You and you alone could bring my lover back to me. Although I know it's just a fantasy. And so knock me clear out, lotus blossom, lotus blossom, please do. Back to me. Although I know it's just a fantasy. And so knock me clear out, lotus blossom, lotus blossom.
Lotus Blossom, Luke Winslow King pour terminer. Et on se retrouve dans quelques secondes avec nos trois invités de la deuxième heure, Michel Roland, Denis Agenais et Delaney Pickering. À tout de suite.